9h-11h,
Wendy Bouchard.
Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous allons partir en exploration ce matin en suivant une ligne de chemin de fer, en l'occurrence celle qui relie désormais au Maroc Casablanca à Tanger en ligne à grande vitesse. Car un TGV vient d'y être inauguré par Mohamed VI et par Emmanuel Macron. C'est la première liaison à grande vitesse d'Afrique, figurez-vous. Le train Al-Borak-Alstom est une réplique de nos TGV de la SNCF, une création française, une marque qui s'exporte. Qu'est-ce que cela dit de l'aventure du TGV et de sa renommée dans le monde entier? Eh bien, on retrace ensemble son histoire, qui est aussi la nôtre. Et si vous voulez commenter cette actualité, n'hésitez pas à réagir, chère Julie.
Sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 ou par téléphone au 39 21 50 centimes la minute.
Bienvenue à bord.
9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec un passionné de l'histoire du chemin de fer, Clive Lamming. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonjour d'être avec nous pour commenter cette actualité. Vous qui avez publié notamment l'histoire par les cartes, les chemins de fer mythiques. C'est un livre passionnant. Alors intéressons-nous d'un peu plus près à cette nouvelle ligne. Car il y a comme un air de France au Maroc. Si vous connaissez le pays, si vous y habitez, si vous y voyagez bientôt, eh bien peut-être vous pourrez emprunter ce nouveau train à grande vitesse qui va désormais relier Casablanca à Tanger via Rabat. Ce ne sera plus 4h45 de voyage, mais 2h10. Eh bien voilà, on va s'envoler avec cette ligne et c'est une première sur le continent africain. Comment l'expliquez-vous ?
C'est à peu près inexplicable si on regarde l'histoire du chemin de fer africain, puisque l'Afrique a été longuement colonisée et chaque pays a créé son propre système qui était incompatible avec celui des autres. Autrement dit, il n'y a pas de chemin de fer africain au sens véritable du mot, il n'y a pas de continent africain sur le plan ferroviaire. Mmh. Alors le Maroc est un cas à part, ce n'est pas tout à fait l'Afrique, je dirais que c'est le portail de l'Afrique. Le Maroc n'est qu'à 14 kilomètres des côtes du continent européen. Et effectivement ce TGV, pourquoi est-il inauguré aujourd'hui? Parce qu'il est pour moi le prolongement naturel du TGV espagnol. C'est l'Espagne qui a la clé, qui a l'explication du système. L'Espagne veut se raccorder à l'Europe. Elle a construit courageusement à peu près 1500, 1800 kilomètres de lignes TGV à grande vitesse. Et le Maroc n'attendait que cela pour construire sa ligne avec l'espoir, je dis bien l'espoir qu'il y aura le tunnel. Ouais. Et s'il y a le tunnel, à ce moment-là, c'est gagné.
Ah,
le Maroc devient européen.
Eh bien, c'est ça. Mais c'est pour ça que l'investissement a été à la hauteur des enjeux considérables pour le Maroc. Un projet à 2 milliards d'euros, mais fondamental pour l'ouverture et pour l'économie du pays, évidemment.
Fondamental pour l'économie du pays, si on estime que ce pays n'a d'avenir qu'avec l'Europe. C'est une certaine manière de tourner le dos à l'Afrique. Et nous verrons, si vous le souhaitez, que le Maroc, normalement, devait faire partie d'un grand réseau nord-africain, le réseau du Maghreb, qui est issu du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, et qui devait se prolonger jusqu'en Égypte, qui est le seul réseau à voie normale de l'Afrique actuellement. C'est le seul réseau qui a été construit pour être compatible avec l'Europe.
C'est vrai, Julie ?
Oui, parce que pour l'instant, c'est une ligne nord-sud. Et vous parlez d'une ligne qui serait ouest-est, jusqu'à l'Égypte.
L'Afrique pourrait comparer toute publicité non payée à une sorte de Big Mac. Du nord au sud, il y a des tranches.
C'est ça.
Et la tranche méditerranéenne a toujours été de loin la plus perfectionnée, la plus cohérente. Et cette partie du Maroc est plutôt est-ouest que nord-sud. Enfin, elle est orientée en biais.
Oui.
Mais elle vient prolonger le réseau algérien et tunisien. Et si les choses avaient été bien faites, ça n'aurait fait qu'un avec le réseau égyptien. Seulement les Italiens, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont occupé la Libye et n'ont installé qu'un petit réseau colonial, on va voir ça, en voie de 950 mm qui était tout à fait incapable de tenir le rôle. Donc finalement, ce sont les Français qui ont fait, à mon avis, et toute honte bu, le meilleur réseau en Afrique, c'est le réseau du Maghreb. Qui est un réseau qui était aussi beau que celui de la métropole, même supérieur en qualité, puisque dès 1927, il est électrifié. C'est-à-dire qu'on fait aussi bien au Maroc et en Algérie qu'on fait en France, je dirais même mieux. Alors que pour le reste de l'Afrique, on a fait moins bien. On a fait des réseaux de type colonial, c'est-à-dire c'était des réseaux, vous savez, comme celui de la Corse, ou de la Bretagne, ou des Alpes, c'est-à-dire des réseaux en voie métrique, des tout petits trains, comme il en existe toujours, comme en Corse, vous voyez,
oui.
Ou entre Nice et Digne, le train d'Épinay. La France faisait en Afrique ce qu'on appelle des réseaux départementaux,
c'est
parce
ça.
Qu'on n'y croyait pas. Mais on croyait en Afrique du Nord. Alors, le Maroc, donc, a la chance d'avoir bénéficié de cet acte de foi et a su toujours maintenir son réseau à un très haut niveau et aujourd'hui, donc, recueille les fruits avec cette ligne à grande vitesse.
C'est passionnant, à la fois de l'histoire, de la géopolitique et aujourd'hui la réalité bien concrète.
C'est de la géopolitique parce que le chemin de fer, c'est l'histoire. Le chemin de fer a construit les civilisations. La Russie, c'est le transsibérien. Les États-Unis, c'est le transcontinental. C'est le chemin de fer qui a construit la civilisation occidentale. La civilisation industrielle. Et aujourd'hui, je vous rappelle, Wendy, que le chemin de fer, par exemple, en France, c'est 50 fois l'avion au point de vue trafic, au point de vue transport des voyageurs. Oui. Roissy est très fier de ses 250 000 passagers par jour, mais la gare parisienne la plus proche, la gare du Nord, c'est 750 000 par jour. Toutes les gares de Paris, c'est près de 1,5 million par jour. Et la France entière, c'est 50 fois Roissy.
C'est la plus grande transhumance humaine.
Le chemin de fer, tous les jours, c'est en France, c'est à peu près 15 000 trains. Et qui arrive presque tous à l'heure, à peu près. Mais c'est 15 000 trains chaque jour, c'est 10 millions de voyageurs par jour. Aucun moyen de transport n'est aussi performant. C'est une machine à transport de masse.
Et c'est passionnant avec vous, Clive Fleming, cette histoire du chemin de fer, histoire du TGV. On va revenir évidemment au Maroc, alors que la France a investi à hauteur de 51% dans ce projet de TGV. Vous allez nous le dire aussi pourquoi. Et fait le tour de cette question. Si vous aimez les trains mythiques, n'hésitez pas à réagir aussi. Vous avez l'invité de taille qui est en studio avec nous jusqu'à 11h, Julie.
On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Pourquoi on n'entendrait pas Richard Anthony si on parle de train? Moi, je dégaine absolument cette musique et j'assume.
J'ai même pas dit bonjour.
Alors, on peut dire bonjour à Guillaume, à Sarah Cruz, à Charlotte Arrigoni qui sont avec nous en régie pour faire le tour de la question.
Est-ce que ça siffle un TGV d'ailleurs?
Ça siffle plus guère.
Mais pour les maternelles, les enfants, ils font toujours tout quand ils jouent au train. Ils sifflent. Pour les enfants, ça persiste. Mais un TGV ne siffle pas.
Sinon, on ne pouvait pas faire le bruit du train, c'est embêtant. Jusqu'à quand les trains ont-ils sifflé, Clive Fleming?
Jusqu'en 1971 à Paris, le dernier train à vapeur, banlieue Nord. Donc les trains ont sifflé, effectivement, jusque dans les années 70.
Bon, et pas seulement trois fois.
Ou de nombreuses fois.
De nombreuses fois.
Il y avait même des mécaniciens qui jouaient des airs de musique avec. Ils y arrivaient. Ce qui était d'ailleurs interdit parce qu'ils choisissaient des morceaux qui étaient politiquement peu avouables.
Bon, alors nous avons aujourd'hui dans l'actualité ce train inauguré, cette grande ligne de TGV au Maroc qui va relier deux poumons économiques du pays, Casablanca et Tanger via Rabat. Et je disais que la France a participé à ce projet à 51%. Alstom, le TGV, la SNCF, donc il y a un bout de France encore au Maroc et de manière industrielle cette fois. Très clairement, Clive Fleming.
Je suis très étonné d'ailleurs de cette participation de la France parce que j'ai moi-même été choisi par le ministère des Affaires étrangères pour représenter la France au G8 de 2011 à Paris qui était consacré à l'Afghanistan et j'ai dessiné pour l'Afghanistan le réseau afghan. Avec une ligne directe Chine-Europe passant par l'Afghanistan et par le Pamir. Ce réseau est en construction, 20 milliards. C'est absolument magnifique. Mais alors, à l'époque, la France a dit, m'a proposé, si je voulais, de continuer, mais qu'elle ne financerait rien. Il y a encore quelques mois, le président Macron, je l'ai entendu dire, j'y étais, à Rennes, qu'on allait arrêter toutes les constructions de lignes de TGV. Parce que, disait-il, ça ne rapportait rien. Ce qui m'a d'ailleurs fait bondir, parce que les lignes de TGV rapportent beaucoup. Mais seul...
C'est un tiers du chiffre d'affaires de la SNCF à l'étranger, hein, c'est ça à peu près?
Oui, mais les TGV, disait-il, ne rapportent pas, donc on arrêtait. Il avait tout à fait, vous savez, au mois de juin de cette année, dit qu'on arrêtait la construction des lignes à grande vitesse. Mais il a changé, et tant mieux, puisqu'aujourd'hui, il y a 5 chantiers qui sont prévus en France.
Oui.
Vous le savez, cela. Dont le prolongement Bordeaux-Toulouse, le prolongement Marseille-Nice, etc. J'en passais des meilleurs. Mmh. Autrement dit, le président Macron a donc bien changé et reconnaît implicitement que le chemin de fer est un investissement qui rapporte, en général, c'est au moins du 8 à 9 % de rapport brut.
Parce qu'il pensait que les bus Macron allaient remplacer ces liaisons qui sont quand même beaucoup plus rapides aujourd'hui. On sait faire les lignes à grande vitesse.
Ne rapporte pas. Vous savez que la SNCF vient de revendre à BlaBlaCar C'est les autobus au omnibus. Ah ça oui. ne rapporte pas.
Ça ne rapporte pas.
L'autobus ne peut pas rapporter ce que rapporte le train. Mais je vous signale que le train, si je ne l'ai pas déjà dit, c'est 50 fois l'avion. Oui, je vous l'ai dit. Et c'est effectivement, le TGV fait partie de cet immense système qui est complètement bénéficiaire.
Et vous l'avez dit absolument, vous avez dit aussi, mais ça c'était pendant la pause, donc les auditeurs n'ont pas pu partager, qu'en Afrique c'est 20% de la population mondiale et seulement 3% du réseau de chemin de fer du monde. Voilà pourquoi cette ouverture de lignes à grande vitesse au Maroc est pour eux un levier économique incroyable, pas simplement à l'adresse du monde, mais aussi pour les Marocains eux-mêmes. Hein. Le gouvernement y tient.
Je dirais que c'est à l'adresse du monde et des Africains, puisque enfin quelque chose se produit sur le plan ferroviaire en Afrique. Ce continent n'a jamais eu de chemin de fer. Pratiquement jamais eu. Je voudrais vous expliquer, si je peux, le problème du chemin de fer. Voyez-vous, un camion ne demande qu'une surface plate pour rouler.
Oui.
De préférence goudronnée. Mais ça va partout, un camion.
Oui.
Un chemin de fer, pas du tout. Un train s'emboîte dans les rails. Au millimètre près, il y a ce qu'on appelle le problème de l'écartement. Et chaque pays en Afrique, chaque pays colonisateur s'est vite dépêché de relier tel ou tel bassin minier ou telle surface agricole à tel ou tel port pour vite tirer, pardonnez-moi l'expression, pour vite tirer toutes ces marchandises
D'accord.
en direction de la métropole.
On a fait l'urgence, c'était
On
le maillage.
L'urgence était d'exploiter. Et je me souviens quand j'étais petit à l'école communale en France, il y avait cette carte d'Afrique où il y avait, vous savez, la carte Vidal Lablache,
oui.
un mètre carré au mur. Il y avait des quantités de flèches qui montraient les cacahuètes, le cacao, l'huile, le beurre,
oui, etc.
Des quantités
les
de flèches qui
de
quittaient,
première.
Mais il n'y avait aucune flèche qui n'allait vers l'Afrique.
C'est-à-dire
qu'on a vraiment exploité ce continent au maximum, sans souci de créer en Afrique un réseau continental qui soit dans le même écartement du nord jusqu'au sud de l'Afrique. Par exemple, l'immense réseau d'Afrique du Sud, créé par les Anglais, dont je fais un peu partie,
mmh.
oui, mais c'est un réseau en voie étroite. 1067 mm, c'est ce qu'on appelle le réseau métrique anglais ou le réseau colonial, écartement dit du Cap. Il est incapable d'assumer, n'est-ce pas, pour l'Afrique, un transport à l'échelle continentale.
C'est-à-dire que l'Afrique du Sud n'a pas de TGV aujourd'hui, n'a pas de ligne à grande vitesse.
Elle ne peut pas.
Ne peut pas.
Aucun pays d'Afrique,
en l'état actuel des réseaux.
L'état actuel, il faudrait construire absolument et intégralement de toutes pièces.
C'est incroyable, en 2018, alors que l'Afrique du Sud est un pays.
L'Afrique est un pays où il y a en gros à peu près 7 écartements différents. Chaque pays ayant le sien en fonction de son origine coloniale. C'est-à-dire que les pays d'origine française, c'est du métrique. Les Belges au Congo ont fait du métrique, les Allemands aussi. Mais alors les Anglais ont fait du 1067 mm ou du 3 pieds. C'est-à-dire que, et aucun réseau ne peut correspondre avec un autre.
Et lorsque le Maroc veut moderniser ses lignes, il tend la main à la France, à l'expertise française justement, pour créer un nouveau système, d'où l'ampleur 2 milliards d'euros de ce projet, parce qu'il a fallu tout remettre à plat.
Non, justement, prolonger, je dirais, le système actuel qui est en écartement normal. Parce que n'oubliez pas que le TGV roule sur l'écartement de tout le monde. Quand vous avez à Paris la ligne à grande vitesse, quand le TGV vient jusqu'à la gare de Lyon,
oui,
à un moment donné, il quitte la ligne à grande vitesse,
oui.
mais il reste sur la voie normale mm-hmm. pour arriver jusqu'à la gare de Lyon.
Oui.
Donc, ce n'est pas une création ex nihilo.
D'accord.
C'est simplement des raccordements, vous voulez, qui sont plus rapides. Mais c'est la même voie. C'est la même voie depuis 1829, l'écartement de Stephenson, je voulais, en Angleterre. Donc, le TGV n'est pas quelque chose, je dirais, d'intégralement nouveau. C'est une voie donc tout à fait ordinaire. D'ailleurs, par exemple, les Allemands, leur ligne à grande vitesse, avec les trains de marchandises, les empruntent la nuit. C'est-à-dire que ce n'est que, je dirais, un prolongement, finalement. C'est une autoroute par rapport à une route, c'est le même système, mais simplement on peut rouler plus vite.
On peut rouler plus vite et le train a permis justement aux civilisations de se mêler. C'est aussi le projet historique du chemin de fer. On y revient avec Clive Fleming, notre invité qui publie Chemin de fer mythique aux éditions du Chêne. Et avec vous, chère Julie. Ah, on adore et c'est bon avec notre invité d'écouter Clive Fleming, Coolio, mais pas que Coolio parce que vous avez plutôt un petit faible vous pour Berlioz. Alors on va prouver notre éclectisme sur Europe 1, cher ami, écoutez ça. Alors là on est où ? Là on est dans les pâturages suisses par exemple, en chemin de fer.
Peut-être dans les pâturages suisses.
Oui. Voilà, et on embarque dans l'aventure du train.
Il y a une résonance presque ferroviaire, vous voyez, ça sonne comme du métal, comme de l'airain, vous voyez.
Il nous raconte l'histoire du chemin de fer à l'occasion de l'inauguration jeudi dernier du premier TGV d'Afrique, la nouvelle ligne LGV qui devrait être ouverte aux voyageurs d'ici la fin du mois, entre Tanger et Casablanca sur 350 km pour relier les deux pôles économiques en 2h10 au lieu de 4h45 actuellement. C'est un train baptisé Al Borak, Clive Fleming, en référence à une monture ailée fantastique dans la tradition islamique. Car évidemment, le train s'envole à certains égards. Hein. Avec des pointes à combien pour un TGV, vous nous rappelez ?
En général, les TGV sont calibrés aux environs de 300-320 km/h. Je pense que ce sera la vitesse.
Oui, parce mais quand on fait des essais, c'est beaucoup plus parfois. Hein, avec des approches jusqu'à 500
km/h. Il peut y avoir des pointes beaucoup plus élevées. Maintenant, la vitesse commerciale, comme on dit, c'est-à-dire la vitesse couramment pratiquée, en général, elle est celle qui est suffisante pour vider les avions. C'est-à-dire qu'on va assez vite, juste pour vider les avions. C'est pourquoi les TGV entre Paris et Lyon ont roulé à 260. Puis comme la caravelle, malgré tout, n'était pas si nulle que ça, on est monté à 270. Et après, on est monté à 300. Mais ça suffit. On économise l'énergie. Et pourtant, le chemin de fer consomme très peu d'énergie. Vous savez que votre voiture, c'est à peu près 40% des frais en énergie, c'est-à-dire en essence. L'avion, c'est 80%. Le chemin de fer, c'est du 4%, 5%. C'est-à-dire qu'une locomotive de 2000 chevaux tire 2000 tonnes. Alors, un camion de 40 tonnes, il lui faut 400 chevaux. Il lui faut déjà 10 fois plus. Il était interdit du temps des chemins de fer, de, par exemple, de pousser les wagons de 20 tonnes à la main. Vous pouvez pousser à la main un wagon de 20 tonnes, alors qu'essayer de pousser une voiture en panne qui pèse une tonne, on n'y arrive pas.
Ah, c'est incroyable.
Tout le monde dit le chemin de fer roule avec très, très, très peu d'énergie. Le simple problème, c'est le coût de l'infrastructure. Il faut soigner ça. C'est une pièce usinée au millimètre près pour que ça roule en douceur. Mais la consommation d'énergie n'est rien. Si vous avez un train de 2000 tonnes qui est prêt à partir, et subitement on s'aperçoit qu'il y a encore 1000 tonnes à mettre, on peut les raccrocher au bout. La locomotive restera la même. 2000 ou 3000 tonnes, ce sera toujours un conducteur, 2000 ou 3000 tonnes. Avec des camions, si vous avez 1000 tonnes qui arrivent, il vous faut 30 camions.
Ouais.
Et vous avez 30 conducteurs en plus, et vous avez 30 fois la consommation en plus.
Bah,
le train ne demande aucune consommation supplémentaire pour les 1000 tonnes. Ils partent comme ça.
Avec le chemin de fer qui est 50 fois l'avion en matière de transport.
Volume de transport, absolument.
Et
l'énergie est aussi, je vous dis, ça ne consomme presque rien. C'est pourquoi je plaiderais pour l'investissement dans les chemins de fer, que ce soit dans le monde, parce que c'est la seule manière de sauver la planète.
C'est comme ça que vous expliquez que la France a participé à hauteur de 51% à cette ligne TGV Alstom au Maroc.
Je n'aurais pas la naïveté de croire que c'est pour sauver la planète,
non,
mais il y a de ça.
Mais
il y a quand même un retour sur investissement
c'est ça,
qui
c'est
est
un
considérable.
Bon placement.
C'est un très bon placement.
Mm.
Remarquez, l'éducation et la santé aussi. Je ne vais pas dire le contraire.
Oui.
Vous voyez donc, c'est pourquoi les choix sont très très difficiles. Et je comprends qu'il y a de vos auditeurs qui protestent contre cet investissement.
Qui disent, voilà, évidemment, ça fait des postes d'infirmières en moins.
Mais c'est de l'argent très bien placé.
Ce milliard d'euros français.
C'est ça, c'est de l'argent qui est quand même très bien placé. Et le chemin de fer a l'avantage de consommer une énergie qui ne troue pas l'ozone, puisque c'est de l'électricité.
C'est ça. Projet lancé en 2007 avec Nicolas Sarkozy, qui aurait dû être inauguré en 2015. Il y a eu 3 ans de retard pour ce projet assez ambitieux. Il y a eu de très longues procédures d'expropriation. Évidemment, quand on retrace des lignes, on chamboule aussi le terrain.
Certaines expropriations ont duré 20 ans. D'ailleurs, les gens faisaient spéculer là-dessus. Ils étaient très contents qu'on les exproprie parce qu'ils faisaient monter le prix. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé au Maroc. Et il y a eu aussi des problèmes techniques parce que vous savez que le chemin de fer, c'est la géologie, c'est le sol. Et il fallait surtout explorer le sol, savoir ce qui se passait en dessous. Il ne faut pas que ça bouge. Savez-vous qu'un millimètre de décalage entre deux rails qui se suivent sur une ligne
de TGV, ça nuit à l'écartement.
Un millimètre de décalage en hauteur, ça fait un choc de 7 tonnes dans le premier essieu. Comme on dit, il faut que la voie soit parfaitement usinée et lisse au millimètre près sur 300-400 km. Et c'est une pièce tellement fragile que toutes les nuits, on vérifie, on mesure, on redresse.
Évidemment.
Il y a des travaux d'infrastructure considérables sur le chemin de fer.
Et en dehors de ces travaux, le coût du foncier, on va en parler dans un instant aussi, pour sur les différentes lignes qui expliquent parfois la non-rentabilité des lignes de train. Les chemins de fer mythiques aussi, on pourra en parler jusqu'à 11h. On fait le tour de la question avec notre invité Clive Lemming. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous parlons du premier TGV en Afrique quand l'excellence française s'exporte pour cette ligne Casablanca-Tanger qui vient d'être inaugurée par le roi Mohamed VI et par Emmanuel Macron. Wendy Bouchard.
Notre invité est spécialiste du chemin de fer. Clive Lemming a écrit notamment le chemin de fer mythique aux éditions du Chêne. Il est consultant pour l'Union internationale des chemins de fer qui a son siège à Paris. Vous allez nous en parler dans un instant, Clive Lemming. Je précise que la SNCF réalise aujourd'hui un tiers de son chiffre d'affaires à l'international, notamment avec le TGV. Alors, le TGV déjà en Europe a fait des émules et des petits enfants, vous vouliez me corriger?
Oui, un tiers de son chiffre d'affaires dans ce qu'elle construit à l'étranger.
C'est ça.
Pas de chiffre d'affaires.
Oui, dans ce qu'elle construit à l'étranger. Oui. Dans ce qu'elle construit à l'étranger avec le
parce
TGV.
Parce que c'est 9 dixièmes du chiffre d'affaires de la SNCF, c'est dans l'Île-de-France, dans
le
transport des voyageurs.
Bien sûr. Mais dans ce qu'elle construit, pardon, je me
dans
suis mal exprimée.
Construit, oui,
avec le TGV en Belgique, le TGV en Angleterre, le TGV en Espagne et maintenant donc le TGV au Maroc, Clive Lamming, entre Casablanca et Tanger, une réussite incontestable pour la SNCF. Alors on a un auditeur qui réagit en disant votre invité s'emballe, il y a des constructions de lignes en Afrique. Évidemment, il y a des trains en Afrique, mais pas des TGV. Ouais. Il dit le Sénégal en construit avec la France, la Chine investit au Nigeria, en Éthiopie. Il est même prévu une ligne Maroc-Nigeria, mais pas une ligne à grande vitesse.
L'Afrique, c'est la foire aux prévisions et aux projets. D'ailleurs, depuis l'an 2000, l'Union africaine des chemins de fer a des projets de grandes lignes continentale, qui relie le nord au sud. Mais je peux vous dire que les projets, par exemple, le projet du transsaharien a été un projet français immense.
Le transsaharien,
ça a commencé vers 1910 et ça a duré pendant 50 ans le projet.
Oui.
Et dans les années, en 1943, eh bien, Philippe Pétain, maréchal de France, président de la République à l'époque, signe enfin le décret de construction. Il fallait occuper la France à l'époque, qui était dans une période de dépression à tout point de vue, et surtout remonter le moral des Français. Donc, on crée ce grand projet.
Et le qui reliait train, quoi l'Algérie
alors, il devait relier l'Algérie
au Niger.
Au Niger, c'est-à-dire ce chemin de fer était une sorte de vaisseau transsaharien qui devait amener à Marseille tous les bienfaits, encore une fois, des colonies.
Ça.
C'était un grand projet.
Et pourquoi ça a chopé?
Et ça n'a jamais marché parce que finalement, on a commencé la construction de la ligne, mais il y a eu le développement de l'aviation, le développement de l'automobile à travers le Sahara. Oui. Et puis finalement aussi, disons-le tout crûment, la France a abandonné ses colonies dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Empire colonial français avait par exemple tout à fait soutenu De Gaulle. Vous savez que De Gaulle s'est appuyé sur l'Empire colonial pour pouvoir revenir en France. Mais la France abandonne et abandonne à peu près l'ensemble de ses grands projets. Donc le chemin de fer de transsaharien n'a jamais roulé. On peut encore aujourd'hui on peut voir des gares, des viaducs.
Et
il a roulé jusqu'à Colombéchard. Il est allé de l'Algérie jusqu'à Colombéchard, c'est-à-dire à l'entrée même, à l'orée du Sahara. Mais ce n'est jamais allé plus loin.
Qui investit aujourd'hui en Chine pour le train, outre la France, au Maroc en l'occurrence, Clive Lamming? Les Chinois sont présents évidemment?
Non, les Chinois ont investi d'une manière exemplaire, en faisant quelque chose de remarquable avec le chemin de fer de l'Éthiopie, qui était aussi une réalisation coloniale française, le fameux chemin de fer qui montait depuis Djibouti, notre côte, nos possessions, Djibouti, jusqu'à Addis Abeba, qui était la capitale de l'Éthiopie. Il y avait donc une très jolie ligne de chemin de fer, voie métrique, toujours pareil, du départemental, toujours la même chanson. Mais les Chinois ont eu le courage de faire une ligne en voie normale, autrement dit, elle est au standard européen, vous voyez, donc elle est en voie normale, permettant le trafic lourd. Et cette ligne, donc, est absolument exemplaire. Donc, bravo. Ils ont aussi construit, effectivement, quelque chose en Tanzanie. Le Tanzam. Donc c'est une ligne, elle, en voie métrique, parce qu'il fallait se raccorder à ce qui existait déjà. Mais les Chinois ont beaucoup de courage pour investir. Pourtant, c'est curieux. Si on regarde, vous savez que les Chinois sont 1,3 milliard.
Oui.
Les Africains sont 1,2 milliard.
Oui.
À peu près la même population. Et au point de vue kilométrage chemin de fer, les Chinois, c'est 85 000 kilomètres. Les Africains, 55 000. C'est-à-dire presque le même dénuement. Les Chinois ont, chez eux, très peu de chemin de fer. Mais ils ont énormément de camions, il suffit d'y aller, ils ont beaucoup de transport par la route. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a une pollution absolument exemplaire en Chine.
Mais ils savent qu'à l'étranger, c'est un investissement.
Mais ils savent très bien qu'à l'étranger, c'est un investissement.
Oui.
Il est vrai qu'en Chine, ils ont eux-mêmes construit un réseau à grande vitesse assez exemplaire aussi. Mais les Chinois prennent très peu le train. Ils ne prennent pas le train, ils ne connaissent pas le chemin de fer.
Eh bien, Clive Lamming, on a tant de questions à vous poser, mais j'en profite parce que là, les auditeurs sont absolument fans de ce que vous dites. Hubert, sur le hashtag Europe 1, nous dit « Passionnant cette émission, pour ce qui est des trains, il y en a un qui fait rêver, c'est l'Orient Express. Et que dire de l'Amérique qui révolutionna le transport entre côte Est et côte Ouest en rendant la diligence obsolète ?» Voilà, le train qui permet de décloisonner les territoires et l'Orient Express, le mythe, évidemment.
Alors, pour l'Amérique, oui, effectivement, le train permet de faire en 8 jours ce qu'on faisait en 8 mois avant. C'est-à-dire que le train va 30 fois plus vite en Amérique. En France, savez-vous, vous me dites que si vous aviez demandé à Europe la permission d'aller faire une émission à Marseille, en 1830, vous auriez mis 20 jours pour y aller, 20 jours
ça.
Pour revenir.
Ça
vous étiez
à France
pendant 40 jours en 1830. Le train vous permettait de faire en heure ce que vous faisiez en jour. C'est-à-dire qu'il va 24 fois plus vite. C'est le plus grand bond en vitesse dans l'histoire de l'humanité.
Oui.
C'est le premier chemin de fer. Aujourd'hui, le TGV met 3 heures, mais avant, il mettait 20 heures. Le TGV ne va que 7 fois plus vite que le premier train qui allait 24 fois plus vite que la diligence. Autrement dit, le chemin de fer, fer, c'est d'abord la vitesse, et ensuite c'est la quantité, c'est la masse. Donc forcément, le chemin de fer est créateur de civilisation. L'Orient Express mythique n'est pas un train de buveurs de champagne et de mondains comme on fait tellement croire au cinéma.
Quoique,
non, oui, aujourd'hui,
oui. Aujourd'hui
il
aussi.
A été. Non, c'est d'abord la volonté d'un homme d'affaires, Georges Nagelmacher, un banquier belge, qui veut que les trains puissent rouler rapidement et ne pas s'arrêter aux frontières. Il imagine finalement de faire pour les voyageurs de l'époque ce que l'aviation fera plus tard, c'est-à-dire des trajets directs et rapides. Et alors il crée ce train qui est un train assez luxueux, c'est une sorte d'hôtel, c'est exactement le confort des paquebots, vous voyez, de la Cunard Line. Et ce train va de Paris à Istanbul. Il lui faut à peu près une trentaine de locomotives. Chaque pays fournit ses locomotives et change. Donc on met 3 jours, qui est extraordinaire, alors qu'avant, il fallait pratiquement un bon mois pour aller jusqu'à Istanbul, qui est à l'époque une capitale, je dirais, à la fois la capitale mondiale commerciale, la liaison entre l'Asie et l'Europe, aussi une ville où il y avait tellement d'espions que dans les hôtels, on les priait de ne pas occuper les salons pour parler, mais qu'ils aillent un peu plus loin. Donc vous voyez, c'est une ville mythique, et ce train est absolument mythique. Il a eu un succès énorme au cinéma, d'ailleurs plusieurs fois de suite, à cause d'Agatha Christie.
Qui vous a placé quelques... En Orient Express, Julie?
Non, jamais.
C'est quasiment impossible.
Express,
aujourd'hui, ouais. Il y a un Orient Express, je dirais, qui ne travaille pas, qui est faux, qui va à peu près de Paris jusqu'à Venise.
Oui.
C'est ça,
mais
pas
c'est
plus.
Ça.
Vous voyez,
Venise,
mais le vrai, aller par les Balkans, et on pouvait se faire détrousser. Il fallait voyager armé dans les premiers Orient Express. C'était comme quelque chose de tout à fait...
Épique.
Évidemment, on y a placé des espions, des diplomates, Matahari, enfin, etc. Ce sont tous des mystères, mais la réalité était très prosaïque. N'invitez jamais un historien et plombe toujours. La réalité était simplement, c'était des fonctionnaires paisibles, des diplomates studieux qui voyageaient le plus rapidement possible en regardant leur montre en espérant arriver à l'heure.
Alors, montre à gousset. Hein. On se retrouve dans un instant avec un invité passionnant, vous l'avez compris, historien du chemin de fer. Le premier TGV en Afrique nous donne l'occasion de parler de la grande épopée du rail à travers le monde et à travers les âges. A tout de suite et jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
La grande épopée du rail. On en parle à l'occasion de l'inauguration de ce premier TGV en Afrique. C'est au Maroc, entre Tanger et Casablanca.
Voilà. Absolument, madame. Et pour ceux qui nous suivent en vidéo sur Europe1.fr, beaucoup soulignent votre élégance, monsieur Clive Lemming, ce petit gilet et ses fleurs. Est-ce que c'est typiquement british?
C'est absolument français.
Ah, c'est absolument français. Bah voilà, très bien.
C'est absolument français.
Ah bon? Merci.
Je n'ose pas vous donner la marque parce qu'on va dire que je suis de la France d'en haut, même de très haut. Je l'ai payé assez cher, je crois. Mais je ne me souviens plus d'ailleurs de la marque. Alors, vous voyez, donc, je vais être tout à fait nul.
Des petites fleurs, en tout cas. Voilà.
Gian Alberto Caprale. Il faut Cino di Sistine.
Ah, bah, c'est très italien,
c'est
cette
italien.
Histoire. Oui, je
alors,
pense aussi.
Qu'est-ce qu'on raconte?
Voilà.
Voilà.
Bien,
je me suis encore fait des amis, vous voyez, avec les Italiens.
Tout va bien. Non, mais c'est intéressant parce que vous vouliez revenir, puisqu'on parle de gilet, au gilet jaune.
Absolument, au gilet jaune.
Parler de l'équipement et du déséquipement français en matière de
train. Je voudrais leur dire que l'histoire des chemins de fer en France, en 1930, il y a à peu près 70 000 km de lignes. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 30 000. Nous avons perdu plus de la moitié.
Mais oui, les petites villes
ne sont plus desservies. En France, c'était la France d'avant l'automobile, le moindre village avait un petit train, un petit tortillard qui circulait le long des routes, ces petits trains à vapeur. Il y en avait partout. On voit encore les restes dans chaque village, un reste
avec
de gare.
Toutes les voies vertes aujourd'hui réaménagées sur ces vestiges.
Donc, on pouvait voyager. Il y avait un véritable service public qui a été démantelé principalement à la suite du lobby automobile, il faut le dire vraiment. Vous voulez, Louis Renault, qui veut faire travailler ses usines, c'est normal, c'est un excellent patron, quand même, fait arracher à Paris à peu près 1000 km de rails de tramway entre 1921 et 1929, parce qu'il faut installer des autobus. Et pendant ce temps, à la campagne, effectivement, on arrache ces chemins de fer. Parce que, pourquoi? Mais finalement, c'est l'armée américaine, lorsqu'elle quitte la France après l'avoir libérée en 1919, laisse 80 000 camions en France. C'est incroyable ce nombre de camions qu'ils ont laissés. Là, les surplus militaires les revendent à des jeunes démobilisés qui rentrent du front et qui se font camionneurs. D'accord. Donc le camion va surtout créer, vous voulez, amener la mort du chemin de fer et la mort de tous ces petits trains qui transportaient voyageurs et marchandises. On pouvait aller à la poire, on pouvait se déplacer tous les jours. Il y avait des trains partout, à toute heure.
Ben oui.
De ces petits trains très modestes qui étaient très lents. Ils ne roulaient qu'à 15 km/h. Donc ce qui faisait que c'était très lourd.
Premier basculement dans les années 30 avec le lobby automobile. Deuxième, j'imagine, avec Pompidou.
Alors, ces trains survivent pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il n'y a plus de pneus, il n'y a plus d'essence. Mais dès la fin de la guerre, la fête libérale reprend. Vive les pneus, vive l'essence. Et la France remet les Français sur les routes et dans les voitures. Donc finalement, il faut rappeler qu'il y a eu un désinvestissement considérable pour des raisons évidemment à la fois d'économie. Ces trains coûtaient cher en personnel, ça faisait travailler beaucoup de monde. Savez-vous que les cheminots à l'époque étaient 500 000 personnes en 1938. Aujourd'hui, ils sont à peine 180 000. C'est-à-dire qu'il y avait une quantité incroyable de cheminots et de chemins de fer en tous sens. Quand on voit une carte de la France des chemins de fer en 1930, mais il y en a autant qu'il y a de routes, pratiquement. C'est une véritable toile d'araignée.
C'est incroyable. Et je reviens aux années 60 avec Pompidou. Quand même, le futur train à grande vitesse est imaginé dans les années 60. On a la voiture, on a le Concorde, l'excellence française aérienne, mais on investit aussi...
Le TGV à l'époque est un pari audacieux fait par des ingénieurs de la SNCF qui se passionne d'ailleurs pour les trains à grande vitesse. Et le dernier acte du président Pompidou, savez-vous, peu avant sa mort, je crois la veille même de sa mort, a été de signer le décret d'utilité publique du train à grande vitesse. Autrement dit, ce n'est pas tant l'homme de la voiture qu'on dit.
Oui.
C'est surtout à cause des voies sur berge à Paris.
Oui,
c'est ce qu'on lui reproche. Mais il a accepté l'idée du train à grande vitesse à une époque où le chemin de fer est un has-been complet. Les trains sont à vapeur, sont sales, sont en retard. Ah tiens, déjà, ils ne sont pas assez nombreux. Les Français n'aiment pas le train. Les décideurs de l'époque, les technocrates de l'époque, sont d'abord des anti-ferroviaires. Ils ne jurent que par la DS et par la caravelle. C'est-à-dire l'automobile, l'avion et l'autoroute. Et la puissance du pays se mesure à la longueur des autoroutes. Et on abandonne les voies ferrées.
Que les Français n'aiment pas le train, et en particulier dans les villes, la bourgeoisie n'aime pas que le train entre dans la ville. C'est pour ça qu'il y a des gares à l'extérieur des villes, comme Saint-Pierre-des-Corps, au lieu de rentrer dans Tours.
Comme
la Roche-Migène pour Auxerre. Non, pour je ne sais plus quelle ville.
Oui. Oui.
Donc il y a ces gares parallèles qui sont en dehors de la ville.
On chasse, mais savez ça, c'était
parce
surtout...
Parce que les habitants
La construction des chemins de fer. Parce que les chemins de fer, il faut 20 ans pour construire la ligne de Paris à Marseille. Et vous aviez... Le chantier, c'est une catastrophe. Il y avait là des milliers de gens qui étaient, je voulais recruter activement, des sans-emploi, des chômeurs, ça les occupe. Et on construit des lignes de chemins de fer, mais à chaque fois, ça dure pendant 20 ans. Et ces gens-là, la nuit, pillent les poulaillers, vont séduire les filles de la bourgeoisie. C'est très mal vécu par les villes qui tiennent à rester tranquilles et à l'abri de ça.
C'est-à-dire
pourquoi des villes très bourgeoises comme Orléans ou Saint-Pierre-des-Corps Orléans refuse, Tours refuse, voyez-vous.
Avec le 22 septembre 1981, Mitterrand qui inaugure la première ligne à grande vitesse. Et où en sommes-nous aujourd'hui en 2018? On fait le point avec Clive Lemming, notre invité, Julie, et toutes vos réactions sur Twitter, hashtag Europe 1, tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Europe 1. Allez, on revient au TGV et à son histoire avec notre invité. Oh, il nous faudrait bien plus qu'une heure pour faire le tour de cette question passionnante avec vous, Clive Lemming, auteur de 200 livres sur le sujet, spécialiste du chemin de fer. Pendant la pause, on parlait des différentes gares TGV que l'on trouve aujourd'hui en pleine nature en France. Je pense à celle d'Aix-en-Provence, à celle d'Avignon, à celle de Valence. Quel est le projet derrière et la philosophie? Pourquoi elles n'arrivent pas en ville, ces lignes de grande vitesse?
Les technocrates automobilophiles sont passés par là.
Encore
il faut prendre le train, oui, mais il faut prendre la voiture pour prendre
c'est
le train.
Prendre le train.
Alors, vous avez le paradoxe le plus sublime dans l'affaire, c'est la gare des Betteraves, quelque part entre perdu dans la plaine, près de l'autoroute d'ailleurs, il y a une station-service.
Dans le nord, donc.
Dans le nord, c'est une gare commune à Amiens, je crois, Arras.
D'accord.
Et peut-être Bapaume.
Donc vraiment dans les Betteraves. Quoi.
Vraiment dans les Betteraves. Il n'y a que les Betteraves qui prennent le train, absolument, ils passent à 300 à l'heure. Mais il y a une très belle gare. Alors, vous avez des gares de Betteraves, bien que ce soit pas la région à Aix. Valence TGV.
C'est un aéroport
carrément, oui. Avec des parkings à perte de vue. Et on est à 20 km de Valence, mais ça permet de prendre le train en voiture. Parce que l'idée, c'est évidemment, on ne peut pas se séparer de sa voiture. Il faut vraiment consommer de la voiture. Alors que Valence, il y a une très jolie gare qui est Valence-Ville. Il y a des TGV qui y vont d'ailleurs. D'ailleurs, de même à Avignon, vous avez Avignon-Ville, c'est le même TGV. Vous avez un TGV qui quitte la ligne à grande vitesse un peu avant Valence et qui fait toute la vallée du Rhône et qui va à Aix-Ville aussi. Donc, vous voyez, c'est pas obligatoire, mais c'est une vision de l'époque où le train se prend en voiture.
Et cher Clive Lemming, on ne désinvestit pas dans le TGV, dans les lignes à grande vitesse. Même Emmanuel Macron, vous le disiez, est revenu sur sa volonté de se désengager. Par exemple l'idée d'un TGV qui pourrait d'ici 2022 relier directement Bordeaux à Londres, une fois par semaine en 5 heures. Et puis il y a la TGV du futur, le TGV nouvelle génération. La SNCF y travaille.
Oui, alors le TGV Bordeaux-Londres, il peut exister facilement. La voie existe.
Oui.
Donc c'est simplement une création d'un train. Alors que là, on parlait de création de ligne TGV. Mm-hmm. C'est-à-dire que le président Macron a, Dieu merci, changé son point de vue. Il avait fait état d'un abandon complet des investissements sur les lignes à grande vitesse pour les années à venir. Il avait fait ça en juillet 2000 de cette année, oui, lors de l'inauguration de la ligne Paris-Bordeaux-Rennes.
C'est vous ça. Savez. Et quelles sont les lignes de grande vitesse
alors,
les plus essentielles?
Il est donc revenu là-dessus, oui, et Dieu merci, c'est très bien. Et il prévoit, je crois, un prolongement entre Bordeaux et Toulouse. Mm-hmm. C'est intéressant parce que les Toulousains sont assez nombreux pour qu'un TGV soit rentable. Il faut à peu près 1 million de personnes, d'accord, dans une agglomération, ah, pour rendre une ligne rentable. Et ensuite, il y a aussi un prolongement qui est intéressant, qui sera celui de Marseille jusqu'à Nice, qui a été longtemps attendu par la Côte d'Azur. Vous savez que Nice est la ville de France qui a le plus de relations avec Paris. L'avion, en somme, Nice est le deuxième aéroport de France.
Bien sûr, on est obligé, hein, si on s'y prend.
Oui, prolonge. C'est obligé. Oui. Oui. Alors là, vous aurez le TGV, donc depuis Marseille, ça passera par la Côte d'Azur.
Il y avait et Paris-Menton en TGV, jadis, ça n'existera pas. Je pense à Charlotte Tarragoni qui est en studio, parce que Paris-Menton, c'est 7 heures de train aujourd'hui. Hein. Moi, c'est agréable,
c'est
mais c'est un peu long.
Train, 5 heures jusqu'à Cannes. Et donc là, à ce moment-là, ça fera à peu près 3h30, 4 heures, vous voyez.
C'est génial.
Voilà. Mais Julie, pour revenir au Maroc, là, vous évoquez, il y a vraiment un projet de tunnel pour aller de Tanger à Gibraltar.
Ça, c'est à la fois l'aboutissement, l'explication et la cause. Il est certain que cette ligne marocaine n'a de sens que si elle est donc raccordée au réseau espagnol.
Mais il y a un projet ?
Ah, il y a toujours eu un projet de tunnel. Il est très court, ce tunnel, et il fera donc 14 kilomètres de côte à côte, et à peu près 25 kilomètres réellement avec les rampes pour de part et d'autre.
Et donc, le tunnel, il fait combien entre...
Pardon?
Le tunnel?
Oui, sous la Manche.
Le tunnel sous la Manche, il fait à peu près 47-48 kilomètres. Donc c'est très court. En ce moment, en Suisse, on vient d'inaugurer le tunnel du Saint-Gothard qui fait 50 kilomètres. Au Japon, il y en a un qui allait jusqu'à l'île de Hokkaido qui faisait 57 kilomètres. Autrement dit, 14, c'est très court, ce n'est rien. Vous savez qu'aujourd'hui,
Monsieur
les tunnels
Lemming
se font avec une machine qu'on suit avec un petit joystick, on marche derrière et la machine creuse toute seule.
Mais c'est vous qui l'avez relancé,
la
Julie, aussi. Hein.
Parce que je voulais la
mais
réponse.
Oui, parce que c'est intéressant.
Mais
vous avez
toute
raison.
Réponse désirée de Julie est sacrée et j'y réponds.
Merci, Mr. Clive Lemming. Merci de votre expertise.
Passionnant.
À demain, chers amis. Merci infiniment.
À demain, c'était Wendy Bouchard, 9h11 sur Europe 1.